Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Bon, voilà, c'est le moment le moins marrant de l'année, évidemment, puisque vous l'avez compris, c'est notre dernière grande hebdo de la saison avant notre grand retour le 31 août prochain. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est un casting 4 étoiles qu'on vous a réservé dans Chut, on écoute la télé, l'hebdo, avec pour commencer notre premier coup de cœur ciné qui sortira le 22 juillet dans les salles de la Comédie Française. À cette occasion, dans une poignée de secondes, nous rejoignent Martin Darondeau et Bertrand Huskla, les co-réalisateurs, mais aussi Pauline Clément et Julien Frison. Et puis, on va parler Beaucoup de Demain nous appartient aussi. La série continue tout l'été. À cette occasion, Arnaud Henrier qui joue Sylvain Moreno, mais aussi Noémie Pontreau qui joue la nouvelle Sophia Donnier. Et puis, on aura le plaisir de recevoir Jennifer Lauré aussi qui nous parlera aussi de sa pièce Panique au Ministère 2. Seront avec nous tous les trois. Et puis, on aura le grand plaisir de recevoir aussi la chanteuse Vanille aujourd'hui. On va parler de sa musique et surtout vous faire découvrir son tout nouveau single Comme des poteaux. Et puis, en fin d'émission, c'est l'événement. On va parler de Tomber du ciel. Le film sort le 12 août au cinéma. À cette occasion, le réalisateur Mohamed Hamidi et les comédiens Momo Jadpedri et également Elias Jadel seront nos invités exceptionnels pour terminer cette saison avec nous en beauté. Alors, vous l'avez compris, même pour la dernière de la saison, on va pas s'ennuyer une seconde.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est l'un de nos derniers coups de cœur cinéma de cette saison de la Comédie Française. Va sortir ce 22 juillet et on a la chance d'avoir les deux réalisateurs qui sont avec nous aujourd'hui, Bertrand Huskla et Martin Darondeau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Martin.
Salut.
Merci d'être là de la Comédie Française. Quel bonheur de découvrir cette institution. C'est un lieu emblématique de la culture. Et évidemment, Bertrand, je crois que c'est un lieu que tu connais très bien.
Moi, je connais très bien pour vraiment y aller en tant que spectateur depuis que j'ai vraiment 20 ans. Quand je suis rentré au conservatoire, on avait des partenariats avec la Comédie Française. On pouvait aller voir tous les spectacles. Je me souviens encore de Laurence Tucker qui joue dans le film que j'avais moi découvert dans le mariage de Figaro que j'avais trouvé extraordinaire. Donc ça a été vraiment un vrai bonheur de pouvoir travailler avec tous ces gens-là.
Martin, la Comédie Française, pour toi, ça représente quoi?
Oh bah pareil, c'est espèce d'endroit tellement incroyable où on adore aller, où on adore redécouvrir les grands textes, les grands auteurs du répertoire. Et voilà, et même pour la créativité, je trouve que c'est fou parce que ce qu'on peut voir à la Comédie Française, c'est pas du tout des spectacles poussiéreux ou ennuyants comme certains peuvent le laisser penser. Et au contraire, on a parfois des mises en scène hyper modernes et je trouve que ça réveille la créativité.
Alors, ce qui est génial, c'est qu'on la découvre en long, en large, en travers, comme peut-être jamais on a vu la Comédie Française de l'intérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire dans votre film à tous les deux. On y retrouve l'histoire de Nina qui, 3 heures avant sa première de Macbeth doit mettre, on va dire, les dernières pierres à l'édifice. Et évidemment, ça ne serait pas une comédie si tout se passait comme prévu.
Bah oui, en fait, ce que tu dis est très vrai. On avait à cœur de montrer la comédie française pour la désacraliser un petit peu, puisque en fait, à chaque fois, on a tendance à dire ce mot de la comédie française avec une espèce de petit accent bourgeois de la comédie française, un peu pour en rire. Et nous, c'était le vrai but du film, c'était de faire quelque chose d'hyper populaire, de dire qu'en fait, ça fait pas peur, que c'est des... Et ce qui est super, c'est que il y a d'un côté la stature de ces acteurs, voilà, Guillaume Gallienne de la comédie française, mais en même temps, les galères de Guillaume Gallienne dans la vie. Peut-être il a des moments, des problèmes de nounou pour garder ses enfants, des problèmes, il est bloqué dans le métro, et peut-être qu'il y a des moments, il est malade, il doit jouer. Et en fait, c'est cette espèce de statue extraordinaire, unique dans le monde, on est les seuls à avoir ça, en contraste avec en fait l'extrême banalité de la vie de tout le monde. Donc c'était, on voulait faire un film populaire, pédagogique. On a des vraies références de cinéma qui sont Nakash Toledano bien évidemment, mais dans cette veine-là, vraiment d'aller vers les gens.
Martin, tous les deux pour réaliser ce film, je crois que ça a été une course effrénée. Ouais. Tout a été très vite. Il a été écrit en 2 mois, tourné en 15 jours, parce que la comédie française n'était disponible qu'au mois de juin. Exactement. Donc il fallait que tout se passe très rapidement.
Bah ouais, tu l'as dit, c'était une vraie course folle. Donc c'était à la base une série, puis personne n'en a voulu. Et en fait, en février dernier, nos producteurs nous rappellent en nous disant « Vous voulez pas qu'on en fasse un film ?» On leur a dit « Bah évidemment qu'on a envie, sauf que là on est le 6 février et pour tourner c'est le 10 juin et pas après parce qu'il y avait disponibilité de la salle en juin. Donc il faut écrire le scénario en 2 mois, le temps de préparer, etc., les autorisations. » Ils nous ont dit « Bah c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. » Et avec Bertrand, on s'est regardé. On a récupéré Pauline et Clémence d'Argent pour écrire ce scénario et on est parti. On a lâché les chevaux et on a dû écrire ça très vite. Et pareil après au tournage, 3 semaines de tournage, donc 15 jours. C'était fou, c'est très peu de prises, c'est très concentré sur le plateau. Et c'est surtout possible parce qu'on avait des acteurs formidables qui sont tout de suite très bons dès la première prise et qui se connaissent. Donc du coup, entre eux, il y a une musicalité qui s'installe tout de suite. Et ils connaissent leur texte, quoi.
Voilà. Ils sont chevronnés, hein, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que Bertrand, je vais te le dire, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est la première fois, je trouve, qu'on a la possibilité de voir l'immense talent de Pauline Clément dans ce film. Je vais lui dire dans un instant, parce qu'elle va venir nous rejoindre avec Julien Frison, mais je trouve que ce film met enfin en avant le véritable talent de Pauline Clément.
C'est tout le pari, ça a été écrit pour elle, et on est hyper fiers de lui offrir son premier rôle. Il y a des notions de milieu qui sont compliquées à comprendre, même quand on travaille dans le cinéma. Le milieu du cinéma, qui peut être premier, deuxième rôle, qui est identifié, qui peut ramener des financements, tous ces trucs un peu là. La chance qu'on a quand on fait des petits films comme le nôtre, parce que c'est un petit film, c'est le plus gros projet de notre vie, c'est la comédie française, mais malgré tout, en termes de budget, c'est un petit film. L'avantage de ça, c'est que du coup, on est assez libre et en écriture et en casting. Donc nous, on s'est dit, on le fait avec Pauline ou personne d'autre. Et en fait, ce sera un peu l'occasion de révéler au pays, nous, ce qu'on sait depuis des années. Donc non, c'est une grande fierté de pouvoir lui offrir ça et enfin mettre la lumière sur ce talent incroyable.
Alors c'est vrai qu'il y a plein de clins d'œil, ils sont tous issus de la comédie française. Il y a des clins d'œil de Guillaume Gallienne, on a Benjamin Laverne qui est surprenant, vous allez voir, avec ce clin d'œil et cette scène qui est absolument lunaire.
Oui, on avait très envie d'avoir Benjamin dans le film. C'est un très bon ami de Bertrand et Pauline. Et on n'imaginait pas faire le film sans lui, sans une petite apparition. Et on a eu la chance qu'il ait aimé le scénario déjà. Et deuxièmement, qu'il ait quelques jours de disponibilité pour être avec nous dans cette aventure. Et oui, je trouve que quand il arrive dans le film par surprise, sans rien raconter aux gens, ouais, ça fait une belle surprise, je crois.
Laurent Stocker, qu'on l'aime ce Laurent. Il est incroyable.
Laurent, ça a été un vrai grand soutien du film. C'est-à-dire que pour revenir un peu dans la genèse du film, on est en février, on doit tourner en juin, on n'a pas de scénario. Mais on doit quand même convaincre la comédie française qu'on veut tourner. Et ce qui se passe, c'est que la comédie française, ils ont des comités de validation des projets qui se font au sein de la comédie française. Donc du coup, je me souviens d'un café que je prends avec Laurent en mars. Moi, je le connaissais sur un film d'avant, Vacances Forcées. On s'était beaucoup amusé sur ce projet. Et on a pris un café. Je lui dis, Laurent, on adorerait t'avoir dans un film. Je te cache pas qu'on écrit pour toi. On adorerait t'avoir, mais j'ai pas de scénario. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vous fais confiance 1000%. J'ai pas besoin de lire. Je suis avec vous et puis je vote pour. Et y a pas de problème. Et en fait, il nous a défendu après. Il a défendu le projet au sein du comité et il l'a fait passer. Et vraiment, on lui est tellement reconnaissant de nous avoir, d'avoir porté le projet aussi. Et surtout, je le trouve fulgurant, c'est un des rares acteurs qui arrive à passer de l'antipathie à l'extrême empathie. Il a une espèce de spectre émotionnel. Il nous a vraiment retourné avec Martin.
Dès le tournage. On voit ça rarement, hein. Franchement, on voit ça rarement chez un acteur.
Ouais, dès le tournage. Et ces acteurs assez magiques où en fait, on redécouvre des trucs en montage. On se dit, attends, on l'avait pas vu, quoi. lui-même a-t-il conscience de ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi des endroits, et je pense que c'est ça le génie aussi, où ça le dépasse. Et nous, après, nos seuls buts est de rendre un peu hommage à sa performance en montage. On espère, mais on le trouve vraiment immense dans le film.
Bon, en tout cas, il y a un casting de folie. Même chaque second rôle a son importance, comme la maquilleuse, par exemple, qui est juste incroyable aussi. Tout le monde met une énergie. C'est un film court, 1h20, je crois, un truc comme ça, mais alors qui est d'une intensité absolument folle au niveau du montage et de l'écriture.
C'était la volonté, vraiment, comme c'est 3 heures avant une première. On voulait vraiment que le spectateur ressente un peu cette pression que peuvent ressentir les acteurs et les actrices, et encore plus la metteuse en scène avec toutes les galères qui lui arrivent.
Ah oui, c'est un peu le 24 heures chrono condensé en 3 heures chrono en 1h20, quoi.
Bah, en fait, c'est très juste parce que la série, à la base, s'est passée sur 1 an, puis on l'a retravaillée, on s'est dit, en fait, on va faire un 24 heures chrono qui se passe à la Comédie Française 3 heures avant le lever de rideau, et puis c'est devenu le film. Et effectivement, on voulait plonger le spectateur dans cette angoisse de c'est quoi monter sur scène? Et effectivement, l'un des personnages le dit à un moment, à chaque première, je me demande pourquoi je fais ce métier. Et ça, c'est des trucs qu'ils se disent eux-mêmes. Encore une fois, on les voit avec leurs grands costumes et leurs noms à particules. Pas du tout. C'est juste des gens qui sont morts de trouille lors d'une première. On a une très très belle scène où à la fin ils se prennent tous dans les bras et se disent merde avant de monter sur scène. Bah ça c'était hyper drôle et beau à filmer parce qu'en fait on a un peu filmé leur rituel qu'ils font vraiment et on a pu reconvoquer un peu leur angoisse, leur peur et je trouve ça hyper universel.
Pauline Clément et Julien Frison vont nous rejoindre dans quelques instants. On est le 13 juillet aujourd'hui, on est la veille du 14 juillet et il faut dire que le film tombe bien, il va sortir en plein été, ça va être l'occasion pour vous de pouvoir aller le voir en famille. Quel souvenir vous garderez, en tout cas, de cette aventure assez unique, intense, condensée, rapide?
Waouh, quel souvenir! Mais mille souvenirs, mille images, c'est très fort de faire un premier film, évidemment, de le faire avec ses potes, c'est encore plus magnifique, et de le faire dans cette institution qu'est la Comédie Française, d'avoir cette chance, cette responsabilité de filmer ce lieu, c'est que des souvenirs incroyables.
Merci Martin, et ne ratez pas aussi Fleur Bleue que tu as fait avec Enya Barou. Ouais. La saison 2 est actuellement en ligne sur MyCanal, on vous invite à découvrir cette pépite aussi en série courte que vous pouvez découvrir actuellement. Mon cher Bertrand, ton souvenir à toi?
Je viens de me souvenir d'un truc que je vais partager. Il y a 7 ans, je crois, je reçois un coup de fil d'un monsieur avec un fort accent grec, je crois, et il dit « je vais pas le faire parce que je sais pas faire l'accent grec ». Et il me dit « rappelez-moi, c'est la Comédie Française ». Et donc... je crois que c'est un canular, que c'est pour me retirer de l'argent, j'en sais rien. Et je rappelle, il me dit « Oui, bonjour, je suis Léonidas, je suis l'assistant d'Éric Ruff, on aimerait vous voir pour passer une audition pour rentrer à la Comédie Française. » Et je lui réponds « est-ce que je peux réfléchir ?» Il me dit « Ah, bah bien sûr !» Je raccroche et je le rappelle le lendemain et je lui dis « Oui, bonjour, merci, mais en fait, je me rends moi-même pas compte de ce que je suis en train de vous répondre, mais je crois que je vais refuser, parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube. » Et je m'amuse bien et je commence à lancer des trucs, quoi. Et il fait « Ah bon ?» Ouais. Et il est hyper cool, il dit « Mais pas de problème !» Et je dis « Mais enfin, j'aurais adoré, en fait !» Et il me dit « C'est pas grave, peut-être on vous rappellera plus tard, enfin, l'histoire est pas finie !» Et je suis d'accord. Et je raccroche, ce monsieur est parti depuis. Et aujourd'hui, on fait ce film-là. Et en fait, si j'avais pas pris cette voie, si j'avais pas fait YouTube, si j'avais pas monté ma boîte de prod, si j'étais pas allé sur Internet, si j'avais pas fait sur Canal, si j'avais pas rencontré Martin chez Canal+, en fait, j'aurais jamais fait ce film. Et j'ai jamais eu de prétention de rentrer à la Comédie Française. Était-ce vraiment mon endroit? Et en fait, le temps a fait que, non, mon histoire avec la Comédie Française n'était pas finie parce que j'ai mis un pied dedans avec ce film. Voilà.
C'est ça qui est génial. Et puis, je pense que vous garderez aussi un très bon souvenir parce que vous avez été quasiment les premiers, je crois, en France à faire une tournée mystère au printemps qui était absolument dingue. Et ça, c'était génial.
Qui s'est trop bien passé, c'est incroyable.
Et ça aussi, c'était une belle surprise à faire justement aux spectateurs. Merci à tous les deux. Julien et Pauline nous rejoignent dans un instant. On écoute la bande-annonce de la Comédie Française. Sort le 22 juillet au cinéma. Merci à tous les deux.
Pardon.
Salut Nina. Mais merde, hein.
Ah ouais, c'est la merde, je suis en retard.
Non, je veux dire, pour ce soir, gros merde, ça va être super.
J'ai pas mon badge.
Chut. Aïe.
Mais tu veux pas m'ouvrir?
Ah ben non, pour rentrer, il faut un badge. Tu l'as pas perdu au moins, hein? Si tu l'as perdu, faut faire une déclaration, t'imagines, quelqu'un le trouve et badge à ta place. Tous les membres de la Comédie Française ont un badge, d'accord? Parce que s'il y a un problème, ça retombe sur qui après? Sur Bibi. Moi, je sais pas si à l'intérieur, si tu décides de casser quelque chose, ou pire, de faire un attentat, hein? Qu'est-ce qui se passe si tu fais un attentat?
Je vais pas faire un attentat.
Ben, qu'est-ce qui me le prouve?
Voilà, notre spécial de la Comédie Française continue avec Pauline Clément. Vous l'avez promis, elle est là. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci d'être là. Julien Frison également est là aussi. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors pour les deux, c'est de la comédie française, hein, comme ça au moins, on fait un tir groupé. Alors c'est ce qu'on disait à l'instant justement avec Bertrand, je trouve que ce film permet effectivement avec ce rôle, Pauline, de mettre tout ton talent enfin à l'honneur et de véritablement voir le vrai talent de Pauline Clément. Tu développes une énergie, mais de dingue dans ce film.
Bah, je pense que j'étais très stressée pour ce film. J'étais très stressée à la prépa. Donc après, comme il fallait que je joue quelqu'un stressé, c'était bon. Le stress, je l'avais déjà pas mal.
Alors, il faut dire que ton personnage est à 3 heures de la première de Macbeth à la Comédie Française. Va devoir faire face à de multiples difficultés pour arriver au lever de rideau qui va être très très compliqué.
Ouais, c'est ça. C'est 3 heures avant la première et ça commence par des embûches. Et puis, je vais pas tout raconter, mais en tout cas, elle doit reprendre un rôle. Et c'est vrai que reprendre un rôle à 3 heures d'une première, je pense que c'est un calvaire, un enfer.
Ça ressemble un peu, en fait, au défi du film, finalement, qui a été écrit en 2 mois, qui a été tourné en 15 jours. Oui. T'as participé à l'écriture, tu t'es beaucoup investi dedans, du coup.
Ouais, c'est ça. On a écrit avec Bertrand, Martin, Clémence, et après, demander à la Comédie Française si c'était possible de tourner là-bas, tout ça, avoir les autorisations, et puis la préparation a été, je sais pas, comme on prépare un peu un mariage, quoi, un espèce de truc effréné. On est dans tous les sens, les informations, les machins. Où est-ce qu'on va mettre le matériel? Et puis, comme j'étais de l'intérieur, puis qu'il y avait aussi la production, il fallait que je fasse un peu le pont des fois entre les deux mondes. Et on a mis un petit peu de temps au début à se comprendre, et après c'était bon. Et on s'est senti trop accueillis aussi à la Comédie Française par les équipes techniques, tout le monde là-bas. C'était génial.
Et puis les acteurs, évidemment, de la Comédie Française étaient là pour vous épauler, vous accompagner. Le cas de Julien Frison, qu'on a déjà reçu dans notre émission, qu'on a plaisir à te retrouver. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ton rôle?
Sur mon rôle, mon rôle, c'est quelqu'un de très angoissé, de très superstitieux, mais d'attachant aussi, je trouve. Il permettait ce rôle, c'est ce qui fait son charme, de mettre, je trouve, un peu tout ce folklore-là qui existe dans le théâtre, des mots qu'on doit pas dire, du sacré, du stress, il permettait une petite déclaration à tout ce côté-là du théâtre. Et moi, j'étais très content que Pauline me propose de la rejoindre dans l'équipe, parce que Pauline, on a été engagés en même temps à la Comédie Française. Au début, on a beaucoup joué ensemble, et puis je ne sais pas pourquoi, on s'est beaucoup moins retrouvés. Et là, c'était trop une joie de la retrouver là-dessus.
Alors, grâce à toi, Julien, moi, j'ai enfin compris ce que c'était qu'une Italienne, quand même.
Ah oui,
une Italienne en loge. Hein, comment on répète une Italienne en loge?
Mais je vais pas vous
spoiler. On va rien spoiler, évidemment.
Je peux déjà vous dire qu'une Italienne, c'est beaucoup moins amusant que ça normalement, hein. Une Italienne, c'est plutôt barbant, hein, à 3 heures de la première, mais là, dans ce sens-là, c'est plutôt fun, je pense.
Bon, c'est vrai que quand on doit être un peu devant, derrière la caméra aussi, Pauline, au côté production, etc., il faut avoir une espèce de schizophrénie pour arriver à être partout à la fois et avoir. C'est un peu le cas de ton personnage, finalement.
Ouais, là, heureusement, il y avait Bertrand Huscla, Martin Darando qui réalisaient, donc je pouvais m'appuyer sur eux et je pouvais me cacher quand il y avait des trucs compliqués à organiser. Mais c'est vrai que le personnage a quelque chose où elle doit un peu tout gérer. Elle se sent un peu seule parce que les autres n'ont pas la même pression qu'elle et sont dans leurs petits problèmes personnels. Et elle est un peu celle qui a tout sur les épaules et qui encaisse. Et c'est de plus en plus lourd sur ses épaules plus le temps avance, quoi.
Oui, ça va devenir même un peu étouffant à un moment donné. On va terminer par vos meilleurs souvenirs, à tous les deux, de ce tournage.
De ce tournage, ouais. Déjà, il faut savoir que moi, je n'ai raté aucun pot, aucun moment de ce tournage. Vraiment, c'était la réputation que Pauline me disait. Elle me disait, Julien, t'es tout le temps le premier à tous les pots, quoi. Le premier à toutes les fêtes et le premier, moi, il y a eu, je jouais en même temps la mouette pendant qu'on faisait le tournage. Et du coup, ça faisait des journées vraiment chargées parce qu'on faisait des pleines journées de tournage, comme le tournage était très rapide. Après, on jouait, le spectacle était très intense. Et il y a eu 2-3 fois, et je le fais jamais, et du coup, j'adore faire ça. Bon, j'ai pas le droit normalement, mais je le dis, mais j'ai dormi 2-3 fois dans ma loge. Et à chaque fois, j'adore parce que je suis là, il y a un truc chargé dans le théâtre la nuit, il y a un truc impressionnant, et ça, c'est des bons souvenirs. À chaque fois, je suis là, c'est comme quand on est enfant et qu'on va dormir chez un super copain. Enfin, je sais pas, il y a un truc où on se sent bien, pas chez soi. Et un peu chez soi quand même. Enfin, il y a un truc que j'aimais bien.
Et pour toi, Pauline?
Moi, je crois que quand le tournage a commencé, c'était trop bien. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu l'impression d'avoir préparé comme un mariage. On était là, alors les petits fours, c'est bon. Les tables, c'est ok. Les invités, c'est bon. Comme si on avait tout organisé. Et qu'au moment où on a commencé le tournage, je me suis dit, ah mais oui, C'est pour ça qu'on a fait tout ça. C'est comme si avant le tout était laborieux et tout d'un coup tout s'éclaire. Les comédiens arrivent avec leur joie, leurs blagues, leurs idées, leurs phrases à dire en plus. Et ça, j'ai trouvé ça trop joyeux. Et effectivement, il y avait moi aussi, j'ai dormi dans ma loge. Il y avait un soir où après la journée de tournage, on a fêté le départ de Eric Ruff, l'administrateur. Il y avait une fête dans les jardins du Palais Royal. En plus, c'était l'été, donc c'était vraiment magnifique. On a tous fait la fête ensemble. On est plusieurs à avoir dormi dans les loges et à être venus à 6h du matin au HMC pour le tournage. Et ces moments-là, je me disais, c'est un peu... C'est vraiment des petits moments exceptionnels, quoi. J'avais l'impression qu'on était une espèce de colo tous ensemble. Déjà, la Comédie Française, c'est une genre de famille, c'est une troupe. Mais là, j'avais l'impression qu'il y avait un plus dans le plus. Et ça, je trouvais ça très, très joyeux, très heureux, quoi.
En tout cas, un moment exceptionnel, c'est sûr, vous allez en vivre un. C'est le 22 juillet au cinéma. Ça s'appelle De la Comédie Française. Le film à ne pas rater, c'est la comédie de l'été. Merci Pauline, merci Julien, merci d'être venu nous voir et d'avoir terminé cette spéciale. À bientôt.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Mon téléphone, mon scone.
Attends, reculez madame, reculez, sécurité.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il y a une dame qui veut rentrer dans la Comédie Française.
Ah, bonjour Nina.
Bonjour Pierre.
Elle est où, la dame?
C'est moi. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît?
Je suis pas habilité, moi.
Je suis pas habilité, non. Dans 2h30, vous me levez ce rideau.
Ça va être une cata.
Quoi?
Tu me casses les couilles, moi!
Je n'entends rien! Vous parlez tous en même temps!
Top, top, top! Vous m'avez dit une brume?
Ça va être génial!
Oh, je l'ai, elle était dans mon pantalon.
Ah bah super! Voilà!
Merci.
C'est bien. Bonne première.
Merci.
Et pas d'attentat.
Allez, dans quelques instants, Arnaud Aurier, Jennifer Lauré, l'équipe de Tombée du Ciel débarque dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Tu fais semblant de ne pas me voir, mais tes yeux me regardent toujours. Tu ne veux pas me laisser y croire, tu tournes toujours tout à l'humour. Tu me dis je veux rien de sérieux, mais tu recheck toutes mes stories. Tu fais la dure, tu joues le jeu, mais on sait très bien comment ça finit. Et tu dis stop, tu veux qu'on ralentisse, mais ton corps lui raconte l'inverse. Tu as peur que l'on soit trop près, tu ne veux pas être blessé. Mais t'inquiète, je ne suis pas pressé. Le soleil dans ma tête, même en hiver, il s'en est dur. J'aimerais tant que le temps s'arrête et que je me trouve à tes côtés. T'as mis le soleil dans ma tête, même en hiver, il s'en est dur. J'aimerais tant que le temps s'arrête et que je me trouve à tes côtés. Tu dis tranquille, on verra bien. Voyons voir où ça nous mènera. Mais quand ta main touche ma main, je sais qu'un jour tu l'emmèneras. Qu'on ralentisse, mais ton corps lui raconte l'inverse. Tu as peur que l'on soit trop près, tu ne veux pas être blessé. Mais t'inquiète, je ne suis pas pressé. T'as mis le soleil dans ma tête, même en hiver, il s'en est dur. J'aimerais tant que le temps s'arrête et que je me trouve à tes côtés. T'as mis le soleil dans ma tête, même en hiver, il s'en est dur. J'aimerais tant que le temps s'arrête et que je me trouve à tes côtés.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Elle est notre invitée aujourd'hui, coup de cœur télé pour Demain nous appartient. On est très heureux de retrouver Arnaud Henrier, qui est notre invité alias Sylvain Moreno depuis 9 ans maintenant. Bonjour mon cher Arnaud.
Aïe aïe aïe, ça y est, j'ai des cheveux gris et tout, j'angoisse. 9 ans déjà. Ouais. Salut tout le monde.
Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et qu'on a navigué ensemble sur des tournages comme celui d'Hôtel de la Plage en Charente-Maritime.
Exactement.
Donc déjà, première question, j'ai envie de te poser, Atlantique ou Méditerranée ?
Maintenant Méditerranée, hein. Je suis tombé amoureux de la Méditerranée, mais sétoise. J'adore cette. Je connaissais pas du tout. Je connaissais vaguement de nom. Et là, je suis amoureux de cette ville, des sétois, des sétoises. Voilà, de leur plage, de leur Méditerranée. J'aime tout chez eux.
Alors, le personnage de Sylvain est évidemment un personnage qui nous fait tellement rire. Il y a aussi beaucoup de moments d'émotion avec Poussin. C'est vrai que c'est un personnage complexe qui a vécu tant de choses depuis 9 ans. Est-ce que quand on arrive dans une série comme ça, que 9 ans après, plus tard on est encore là, est-ce qu'on fait des fois une introspection et on se dit quelle chance de défendre un personnage aussi riche ?
Moi, je trouve ça dingue. Déjà, c'était imprévisible. Enfin, jamais je me suis dit un jour, je jouerai un perso pendant 9 piges, 10 piges. On voyait les séries américaines où les mecs faisaient des personnages pendant 20 ans et tout. Ça me paraissait hallucinant. Et j'en parlais encore avec des amis qui ont rien à voir avec ce milieu. Et je leur disais, mais en fait, on peut pas en avoir marre, quoi. Parce qu'on va jouer, ça va être de la comédie, il va y avoir un peu de drame, il va nous arriver des trucs, il va y avoir un peu d'action, on va être pris en otage. Enfin, donc, on joue de tout, tout le temps. Bon là, quand même, on a une grande page comédie avec Poussin et le trio formé avec Kevin Levy.
Et Soizic. Charlie Nunn.
Voilà. Donc, non, franchement, c'est un plaisir. Et il n'y a aucune lassitude, rien du tout.
Et cette amitié indéfectible entre Alex, Bruno et Sylvain, évidemment, parce que ce trio qui nous fait tant rire, c'est aussi une amitié très forte et une solidarité masculine. Pour le coup, on parle souvent de sororité. Ouais. Mais là, je sais pas quel mot on pourrait donner. Mais en tout cas, c'est vrai que ces trois-là...
La fraternité. Et c'est vrai qu'au début... Parce qu'au début, on avait chacun... Alex avait des séquences avec son épouse, Ingrid. Moi, j'avais les miennes avec Poussin. Et en fait, il y avait jamais vraiment de séquences entre gars. Et puis ils ont commencé à écrire pas mal de trucs entre Alex et moi. Il y avait à l'époque celui qui tenait le spoon, et puis Kevin est arrivé. Et là, c'est les cœurs des hommes, quoi.
Ouais, c'est vrai, complètement.
Ça. Non, c'est très très hyper agréable. Il y a de la comédie, il y a des histoires entre mecs. Enfin, j'adore.
Avec Ariane Séguillon, vous devez finir par vous connaître par cœur, savoir où vous avez possibilité des fois de vous faire friser un peu l'œil.
On n'a jamais fait le tour d'Ariane Séguillon.
Elle est toujours pleine de surprises.
Oh, toujours, toujours, toujours. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir à quel point le couple plaît et à quel point notre relation plaît aux téléspectateurs.
En tout cas, c'est une famille qui en a vécu beaucoup. Elle a vu ses deux enfants partir aussi, du nid. Ça a été assez compliqué pour eux deux à vivre, mais heureusement que Bruno Lamesselé est quand même venu intégrer ce duo.
Là, on a un adolescent plus. Du coup, moi, je redeviens un peu adolescent. Et non, c'est génial de partager le tournage avec Kevin. C'est un plaisir, mais sans nom.
T'aimerais revenir justement Garance pour une arche, Garance Seyé qui jouait ta fille, ou Joachim Fossi pour une arche un peu événement.
J'aurais toujours du plaisir à les revoir. Après, je sais qu'ils mènent leur barque. Joachim avec beaucoup de réussite. Je suis épaté, admiratif de ce qu'il est devenu comme acteur. J'ai été le voir jouer à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon à Paris. Ça m'a fait...
C'est du cinéma depuis
aussi. Non, mais franchement, il a une carrière de fou, quoi. Et en sachant que c'est un sétois de naissance, qu'il est arrivé sur la série, il avait jamais rien fait. Et je trouve que, voilà, je suis admiratif de son parcours et je pense qu'on n'a pas fini de le voir.
Bon, cet été, ce mois de juillet, je crois, c'est une arche qui t'a permis un peu de sortir de cette, alors pas très très loin, à Agde notamment, mais c'est une arche en tout cas qui va nous occuper pendant tout ce mois de juillet.
Ah oui, on part dans l'idée de vacances prises par certains personnages de la série, et on se retrouve sur une île qui pourrait être l'équivalent de l'île de Porquerolles au large de Hyères, et donc ils partent sur cette île. Mais évidemment, ce serait trop facile que tout soit paisible et que leurs vacances soient
d'un repos total,
un long fleuve tranquille.
Ça donc, nous intéresserait moins.
Voilà, exactement. Donc voilà, on se retrouve à quelques personnages de la série dans un hôtel sur cette île, et il va arriver ce qui va arriver.
Ça fait du bien, justement, de sortir un peu des studios, de sortir un peu du traditionnel pour aller faire des arches comme ça.
Ouais, c'est ce qui est toujours amusant, c'est que quand on tourne ce genre d'arches, pas dans les décors convenus de d'habitude, notre villa, les décors en studio, etc., c'est qu'on a l'impression de faire un autre tournage, une autre série, et donc ça donne un nouvel entrain, et c'est hyper agréable, hyper agréable.
Mon cher Arnaud, pour ceux qui n'auraient jamais regardé Demain nous appartient, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire sur Sylvain Moreno? Moi, j'aurais déjà envie de dire grand enfant.
Ouais, grand enfant. Moi, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de vouloir être pote avec moi en voyant la série. Voilà. C'est ce que me disent
les gens. Et là, t'as beaucoup de potes aujourd'hui.
Ouais, non, c'est ce que me disent les gens. C'est genre, on voudrait avoir un pote comme vous. Donc, ça, c'est le plus beau des compliments.
Ouais, ça, c'est franchement génial. T'as une séquence particulière qui des fois te revient en mémoire, soit une séquence émotion ou plutôt une séquence de rire ou de fou rire avec tes camarades.
C'était un peu les deux. Là, j'ai une séquence que j'ai adoré tourner. C'était une séquence où on, tout début on était riche, où on est devenu riche et on avait acheté la maison de Brunet. Et on faisait tout pour être accepté par les gens un peu bourgeois de...
Qu'est-ce que c'était drôle.
Voilà. Et en fait, je reviens d'une nuit blanche, tout bourré, au petit matin. Et j'explique à Christelle que bah voilà, j'ai pas entendu, j'écoute téléphone et que je suis sorti avec copain et j'ai travaillé sur un bateau comme Martin Pêcheur. Et voilà, ça, cette séquence, je l'adore.
Le Martin Pêcheur. Bon, il est retombé un peu dans ses travers dernièrement du jeu aussi, ouais. Sylvain.
Oui, c'est pas méchant, hein. Il coule pas la maison, il coule pas la baraque avec le jeu, mais
c'est ça qui l'a rendu riche quand même, mais faut faire attention.
Ouais. Ben oui, mais une fois c'est bon, faut pas tenter le diable. Quand ça a marché une fois, faut vite partir.
Bon Arnaud, est-ce que t'as d'autres projets à part Demain nous appartient? Est-ce que ça t'a laissé le temps de faire d'autres choses qui seront bientôt diffusées et dans lesquelles on va te voir bientôt?
À ce jour, j'ai rien fait. Je crois que, enfin, Eric Judor m'avait laissé un message pour me dire qu'il y aurait un Problemos 2. J'attends les dates de tournage. Voilà.
Eh ben, nos problemos.
Nos problemos.
Exactement. Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. L'arche d'été pendant tout ce mois de juillet va en tout cas bien nous occuper avec grand plaisir. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On se dit à bientôt.
Ouais, à bientôt. Et on est de passage, hein, donc profitons.
Ne nous faisons pas chier.
Profitons de la vie et arrêtons de nous faire chier la vie. Ok.
J'adore ta phrase. Merci beaucoup, mon cher Arnaud. À très vite.
Astrid. Victoire. Vous vous connaissez d'où?
En colo, on avait 16 piges.
Je t'appelle comment? Victoire.
C'est mieux si on parle pas de cet été-là. Moi j'ai tourné la page et j'en ai jamais parlé à personne.
Allez, notre invitée aujourd'hui, c'est Jennifer Lauré qui nous rejoint. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Évidemment, Demain nous appartient. On continue à te suivre dans le rôle de Raphaël Perrault tous les jours à 19h10 sur TF1 et Netflix. Maintenant, bien sûr aussi. Et puis, à la rentrée, on va te retrouver même tout au long de l'été dans une pièce qui s'appelle Panique au ministère 2. Alors, c'est vrai que Demain nous appartient, bah, t'es arrivé depuis maintenant un sacré bout de temps dans la série. C'est vrai, je me suis dit une quotidienne. Le rythme est différent de tout ce que t'as pu faire avant. C'était ta première, je crois, pour toi.
Oui, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, effectivement, c'était la première fois que je tournais sur une quotidienne qui est effectivement un rythme absolument pas commun aux autres tournages et qui est vraiment propre voilà aux quotidiennes, que ce soit Demain nous appartient, Plus belle la vie ou même ITC. C'est des rythmes de tournage qui sont assez intenses. Donc ouais, je m'y suis frottée il y a 5 ans maintenant.
On s'y fait vite ou pas? Au début, c'est compliqué.
Ah ben oui, il faut prendre le rythme, hein, c'est comme tout, hein, mais bon, enfin ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, et puis bon, après on y arrive bien sûr, y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
C'est clair. Alors, il y a eu plein d'aventures depuis 5 ans qui te sont arrivées, il faut avouer. Et puis, ben, ce rôle d'avocate, Raphaël Perrault, qu'est-ce qui t'a séduit en elle au premier abord?
Ben, son caractère et puis le fait, voilà, d'être un personnage à part entière qui débarque dans cette série et qui soit pas la fille de quelqu'un. Aujourd'hui, voilà, moi, je suis arrivée dans cette série en personnage propre. Et donc, ça m'a beaucoup séduite. Et puis surtout, le rythme de tournage, la qualité de ce qu'on faisait m'a séduite. Donc, c'est pour ça que j'ai pas hésité une seconde.
Bon, t'as deux filles en plus. Ils t'ont mis deux filles choupinettes quand même.
Ouais.
Il faut avouer que les deux, Sixtine, bien sûr, et Elisa. Alors, Elisa est partie il y a quelques mois, mais c'est vrai que le trio a fonctionné tout de suite. Il y a eu cette alchimie aussi de façon personnelle.
Oui, bien sûr, on s'est très bien entendu dès le début. J'ai eu plus d'atomes crochus avec Sixtine, avec qui je me suis vraiment bien entendue et avec qui j'ai vraiment un lien très particulier puisqu'elle vient me voir en dehors du tournage. Je connais bien sa maman, j'ai rencontré aussi son papa. Et donc, plus avec Sixtine qu'avec Elisa, mais je me suis de suite très bien entendue effectivement avec les deux filles.
Et puis le parcours évidemment du personnage en couple avec Martin Constant. Alors ça aussi, ça a été un couple un petit peu au début, je t'aime moi non plus. Alors évidemment, l'une est avocate, l'autre arrête les méchants. C'était un petit peu compliqué au premier abord. On a l'impression vraiment maintenant que le couple a trouvé vraiment ses marques et son équilibre.
Ouais, exactement.
Mais pour combien de temps? C'est ça, on sait jamais dans une quotidienne.
Ben oui, il faut regarder et vous découvrirez au fur et à mesure nos aventures.
Exactement. Tu sais que on a tous grandi avec toi pour le coup. Tu fais partie de l'inconscient collectif d'énormément de téléspectateurs parce que t'as commencé, t'étais toute petite. Moi, je me souviens de la petite Frédérique qui était devant sa télé en train de regarder un match de tennis dans Une famille formidable. Quel regard tu portes sur ce parcours hors norme ?
En fait, ça fait partie de ma vie. J'ai pas d'opinion là-dessus. Que quelqu'un puisse avoir une opinion sur ma vie en se disant waouh, c'est incroyable et ça. Oui, moi c'est ma vie. Donc je peux pas avoir d'opinion, j'en ai pas eu d'autre. Donc j'ai pas de retour là-dessus, c'est juste ça fait partie de mon livre de vie.
En tout cas, il y a une sacrée série culte hein évidemment qui se sont passées. Puis il y a le théâtre aussi. Ça c'est une autre corde à ton actif. Et Panique au ministère 2, ça va démarrer cet été mais surtout aussi à partir de la rentrée à partir du 11 octobre où ça tournera un petit peu partout en France.
Exactement, mais moi j'ai commencé mes premiers amours c'était le théâtre. Donc j'ai
à quel âge ?
À 6 ans. Donc j'ai commencé à 6 ans avec Patrick Chenet, Sabine Autepin dans Joe Egg. Et après, la dernière pièce que j'en ai fait d'autres, mais la dernière pièce que j'ai faite, c'était il y a 30 ans maintenant. C'était Les Portes Claques avec Maurice Rich et Evelyne Leclerc et Christine Nemler, qui était pareil, une comédie de boulevard qu'on a fait en tournée. Donc j'avais 15 ans, j'en ai 46, donc il s'est passé quelques années. Mais je suis très heureuse et c'est grâce à Marie-Hélène Lantini que je fais partie de cette aventure puisqu'elle m'a présenté à Guillaume Mélanie, c'est elle qui a joué les intermédiaires et je suis extrêmement heureuse de faire partie de cette aventure.
Tu y joues Gabi.
Oui, Gabriel. Oui.
Parle-nous un petit peu de Gabriel.
Moi, je suis la chef de cabinet de Cécile Bouchini, donc candidate à la présidentielle à venir.
Sur un coup de tête.
Sur un coup de tête, mais bon, enfin, faut pas trop tout dévoiler, mais voilà. Et parallèlement au fait d'être chef de cabinet, je suis surtout sa fille, donc les relations sont un peu conflictuelles.
On va suivre ça, évidemment, et on va découvrir ça quand tu vas pouvoir effectivement partir un peu partout en France pour faire découvrir cette pièce. C'est difficile de trouver cet équilibre et ce timing pour pouvoir faire d'autres choses justement à côté d'une quotidienne. Est-ce que ça a été facile pour toi de pouvoir te libérer? Ou c'est aussi une condition sine qua non de continuer dans une quotidienne comme ça, de pouvoir aussi t'aérer de temps en temps sur des projets comme celui-là?
Non, je crois que c'est propre à chacun. S'aérer, pas forcément, parce que ça nous laisse quand même pas mal de temps. Effectivement, on tourne beaucoup sur une quotidienne, mais on a quand même aussi beaucoup de temps. Non, c'était vraiment l'occasion qui a fait que voilà, cette pièce s'est présentée à ce moment-là de ma vie. Et puis, parce que j'en avais envie aussi. Après, voilà, c'est propre à chacun. Je crois que chacun se donne le temps ou l'énergie de faire une pièce ou pas. Moi, je ferai pas de pièce à Paris, par exemple, parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps sur ma vie personnelle. Et je pourrais pas. Même avec, d'ailleurs, Demain nous appartient, ce serait probablement incompatible sur une longue période ou sur une année de théâtre. Mais au-delà de ça, ça me conviendrait pas. Moi, ce que j'aime là, c'est de partir avec les copains de temps en temps, à droite, à gauche, de pouvoir profiter. En fait, c'est d'arriver simplement à juste concilier tout. C'est-à-dire que ce soit les tournages, que ce soit le théâtre ou ma vie de femme et ma vie de maman, j'arrive à tout concilier et je trouve que c'est vraiment la tournée théâtrale, c'est vraiment c'est l'équation parfaite pour moi.
Alors, j'avais envie de reparler un peu d'une famille formidable parce que ça a été pour nous tous une série culte. Il était question effectivement peut-être qu'il y ait un spin-off avec les enfants Beaumont. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous en parlez des fois un petit peu entre vous?
En fait, ça a été un peu un fantasme collectif qui est un spin-off. Ça a été abordé, mais il y a des années de ça. À l'époque, Joël Santoni était encore vivant puisque c'est lui qui avait proposé l'idée à TF1. Mais voilà, après, ça c'est vraiment resté une idée de fantasme. Effectivement, on aurait bien aimé, et on aimerait d'ailleurs toujours pouvoir éventuellement faire une suite. Avec les enfants de la famille Beaumont. Maintenant, voilà, je sais pas si c'est réalisable ou pas, et puis surtout si la chaîne en a l'envie. Mais voilà, je suis persuadée que les téléspectateurs seraient au rendez-vous. Mais
on aimerait bien fêter les 35 ans de la série avec vous l'année prochaine, j'avoue.
Oui, mais bon, après voilà, la recette sera obligatoirement pas la même puisqu'il y aura pas tous les ingrédients de la recette là. Maintenant, voilà, ça reste, je pense, plus un fantasme qu'une réalité, mais bon, pourquoi pas.
En tout cas, effectivement, c'est déjà tellement extraordinaire de nous avoir embarqués comme ça pendant toutes ces années que c'est totalement dingue. En tout cas, on va te suivre donc dans Panique au ministère 2. Ça va tourner, on le disait, partout en France. Vous pouvez trouver bien sûr aussi toute la billetterie et toutes les dates sur Les Lucioles, le site des Lucioles. Ça vous permettra de découvrir si effectivement ça passe dans des villes près de chez vous. Et puis on continue à te suivre dans Demain nous appartient, évidemment, tout l'été. 19h10, ça s'arrête pas, vous non plus.
Non plus.
Bon courage. Alors, Sète ou Bordeaux, Jennifer?
Bah Bordeaux, parce que j'y suis née, enfin j'y suis pas née, mais j'y ai grandi et j'y ai vieilli, mais j'aime aussi Sète. Donc
c'est aussi,
pas de choix à faire.
Voilà. Bah, les deux sont bien alors.
Les deux sont bien, exactement.
Et bah, allez, on continue comme ça. Merci beaucoup et on te dit à bientôt.
Merci beaucoup.
Française, français.
Tout est parti d'un point presse.
Moi, quand j'étais ministre, j'adorais les points presse.
Mesdames et messieurs les ministres.
Elle devait annoncer sa grande réforme pour la jeunesse et les sports.
Déjà, ma grand-mère ministre, une vaste blague.
Moi, j'ai décidé, après de longues années de bons et loyaux services, de sortir de la politique.
C'est ma mère. Sur le papier, c'est une adulte. En vérité, c'est une gamine.
C'est très sympa, la retraite.
Aujourd'hui, j'ai à vous parler.
J'ai toujours adoré parler.
Si je m'adresse à vous, jusque-là, tout se passait bien. C'est pour vous annoncer une grande nouvelle. J'ai décidé, en accord avec mes équipes, de me présenter à l'élection présidentielle.
Allez, notre invité aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, c'est Noémie Pontreau, que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1, dans Demain nous appartient, et qui joue le rôle depuis quelques mois de Sophia Daunier, qui a fait son retour, le personnage a fait son retour à 7. Alors, pour le meilleur, évidemment, et pour le pire, au départ, ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas, Noémie, tu as repris haut la main ce rôle qui est incarné avant par Emma Smet. Est-ce qu'on se met facilement dans les chaussures de quelqu'un? Est-ce que je trouve que justement, t'as su le reprendre avec peut-être ta personnalité, ton authenticité à toi, justement?
J'ai eu la chance que Emma Smet est partie il y a un petit moment, donc le personnage de Sophia a grandi, a mûri, et donc j'ai pu apporter un petit peu ma touche tout en gardant l'énergie qu'elle y avait installée.
Oui, c'est bien de ne pas avoir cherché justement à dupliquer peut-être ce qu'elle avait fait, mais lui apporter aussi peut-être la Noémie touch, justement.
Exactement, oui, c'est sûr que c'est plus intéressant pour moi d'aborder ça comme ça.
Comment t'es arrivée dans la série?
Par casting, grâce à Nina Doty, et voilà.
T'avais regardé la série avant ou pas?
Et non. Quand j'étais petite, je suivais Plus belle la vie. Et Demain nous appartient, je ne connaissais pas, non.
On t'en veut pas, c'est la même maison.
Oui, après, je connaissais deux noms, mais je regardais pas.
Bon, comment tu te l'es approprié, appréhendé? Est-ce que t'as, du coup, quand t'as su que t'allais faire la série, est-ce que t'as regardé quelques épisodes ou t'as voulu quand même arriver fraîche, en quelque sorte, sur la série pour justement te l'approprier totalement?
Alors, j'ai regardé quelques épisodes pour voir un petit peu le format, prendre la température un petit peu de comment ça se tournait, etc. Mais c'est vrai que pour le personnage de Sophia, j'ai préféré faire des lectures plutôt que de regarder comment interpréter Emma Smet pour pas justement tomber dans le copier-coller.
Comment on adhère surtout et comment on fait pour surtout arriver dans un rythme d'une quotidienne comme ça? Est-ce que tu t'y es vite fait ou ça a été un peu compliqué au départ?
Alors, c'est compliqué. Après, au début, on a l'excitation. Voilà, et puis là j'y suis encore là-dedans, donc c'est que du kiff, c'est difficile de s'en plaindre parce qu'on travaille beaucoup et on a beaucoup de chance, on le sait. Maintenant, oui, c'est un rythme qui est très soutenu en quotidienne, ça c'est sûr. Voilà, il y a des minutages qui sont très longs à tenir sur la journée, mais voilà.
Il est vrai que quand Sophia est arrivée, elle n'est pas arrivée toute seule au départ, ça a été un retour en tout cas sous haute tension.
Ah oui, complètement, j'ai eu la chance d'arriver avec une arche hyper intéressante à jouer, ça c'est sûr.
Et puis derrière, elle n'est pas tombée forcément amoureuse du bon garçon aussi par la suite. Là, on a vu ces derniers temps effectivement, son patron a été assassiné, ça a fait beaucoup déjà en 6 mois là.
Ça fait beaucoup et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera pas, vous n'êtes pas au bout.
L'été va être mouvementé.
L'été va être très mouvementé pour elle et puis pour beaucoup de gens aussi.
Et pour le coup, est-ce qu'il y a une scène pour toi qui a été particulière, justement, pendant ces 6 premiers mois déjà? Est-ce qu'il y a un souvenir mémorable, des amitiés que tu as pu créer peut-être sur le plateau plus particulière avec certaines ou certains?
Des scènes. Alors, ce qui était particulier, c'était je suis arrivée avec une arche où il y avait un bébé. Donc, autant on a joué avec des bébés, différents bébés, une poupée. Donc, tout ça, c'est vrai que c'était assez particulier et challengeant. Et puis, des amitiés, je m'entends très bien avec mes partenaires. J'ai beaucoup de chance.
Alors justement, la rencontre avec tout le clan Donnier, je pense à Julie évidemment, ou encore Kamel et puis évidemment Louvia.
Ah ouais, je les adore. Donc ils m'ont très bien accueilli et je m'y sens super bien.
Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire, sans trop nous en dire, sur l'été de Sophia qui nous attend? Déjà très perturbée suite à l'assassinat évidemment de son patron hein, au marché.
Oui, c'est vrai, mais bon, on le sait, dans Demain nous appartient, on se remet vite quand même des événements. Donc des vacances en famille, pleines de rebondissements, de nouvelles rencontres.
Ça reste une amoureuse de la vie quand même, Sophia.
Ah oui, elle croque la vie à pleines dents, ça c'est sûr. Elle a même pas froid aux yeux de temps en temps, c'est ce qu'on va voir à l'hôtel.
Eh bien écoute, est-ce qu'il y a des projets à côté en plus dans lesquels tu as joué? Est-ce que ça t'a ouvert des portes peut-être justement?
Alors là en ce moment j'ai eu un rôle dans La Manière Forte sur France TV.
En Charente en plus?
À Angoulême exactement. Et voilà, sinon pour le moment j'essaie de me concentrer à fond dans cette aventure Demain nous appartient. Et puis on verra ce que ça m'ouvre comme porte.
Tu vois à long terme?
Oui, j'espère.
En tout cas, nous, on va continuer à te suivre. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler justement de Sophia Donnier, le grand retour depuis maintenant quelques mois, incarné par une nouvelle comédienne, Noémie Pontroux, qui était notre invitée aujourd'hui. Merci Noémie, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va parler musique aujourd'hui avec Vanille qui nous rejoint pour la troisième fois dans Chez ton écoute la télé, une fidèle de l'émission. On est très heureux parce qu'on aime beaucoup ta musique en plus. Et en plus, on aime beaucoup Vanille. On est tous fans. Merci d'être là, Vanille.
Merci de me recevoir.
Eh ben écoute, on est très heureux de t'avoir, surtout qu'en plus, ben il y a un an, il y a eu un troisième album qui s'appelle Regarde, qui est sorti. On suit ton parcours maintenant depuis quelques années. Quel regard tu porterais justement sur ce parcours et tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années où tout s'est accéléré depuis 2019 finalement?
Ben je porte un regard reconnaissant parce que déjà quand on vit de ses chansons, de sa passion, c'est déjà un très grand bonheur. Et là avec ce nouvel album, j'ai vraiment une ouverture, on va dire, qui s'est faite parce que mon deuxième album, c'était pendant le Covid, c'était quelque chose d'un peu plus introspectif. D'ailleurs, le monde était en introspection avec le Covid, etc. Et là, voilà, c'est la première fois que j'ai co-composé avec Alexis Napson, avec Vladimir Pariente, avec Vincha. Donc, c'est vraiment la première fois que je viens enrichir mon univers d'autres univers. Et ça a été un vrai grand bonheur. Et donc, Alexis Napson est venu mettre des touches électro sur ma pop solaire en français. Donc, on se retrouve avec des chansons à texte dansantes un petit peu. Et là, ça fait un an que je tourne avec cet album. Et sur scène, c'est dansant. C'est vraiment un grand bonheur de pouvoir défendre cet album en live.
C'est ce que je me disais. C'est vrai que dans ta musique, il y a un point commun quand même malgré tout sur ces trois albums. C'est que c'est toujours quand même joyeux, solaire, rythmé aussi. C'est vraiment, on va dire, ton créneau.
Exactement, c'est ce côté un petit peu métissé ou un petit peu tropical. Voilà, le premier album, je l'ai enregistré au Brésil et c'est vrai que ça a donné un petit peu le là de toute la suite. Et ce fil rouge là de percus, de tournes de guitare un petit peu brésilienne, de rythme d'ailleurs, c'est vraiment ce qui m'a amené jusqu'ici et c'est ce qui nous a relié avec Alexis Napson qui lui a été beaucoup, tu vois, inspiré par les guitares, par exemple du blues africain, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé là-dessus. Moi, je suis vraiment du côté chanson, lui il est du côté électro et donc du coup on se retrouve avec cet album hybride qui me semble bien, je trouve.
Justement, pendant tes voyages en Amérique du Sud, t'as découvert des artistes qui t'ont un peu inspiré, qui t'ont mis en joie. Souvent, on a des artistes qui nous émeuvent de façon différente. Et j'imagine qu'en Amérique du Sud, quand on va là-bas, il y a des artistes qui passent pas justement Atlantique et qu'on découvre pas ici. T'as dû faire de belles découvertes.
Ah oui, et même si tu veux, tu te balades dans la rue et là tu trouves des pépites. Je veux dire, la musique là-bas, c'est
religion.
C'est une religion, quoi. Mais vraiment, quoi. Donc les mecs qui jouent dans la rue, genre, c'est des bêtes, quoi. En fait, c'est tu vois, tu vas au Rodaji Samba, donc c'est vraiment ils se mettent en rond et ils jouent de la musique live dans la rue. Donc ils vont jouer des standards de samba, etc. Et les mecs, c'est des tueurs, quoi. En fait, donc tu es transporté pour qui aime cette musique. Moi, je suis dingue de cette musique. Ça t'emmène, mais au Nirvana, quoi. Ouais.
C'est ça qui est chouette. Regarde, ne fais pas exception à la règle, évidemment. Dans ce troisième album, on y retrouve des sonorités. C'est un peu l'album de la continuité aussi, quand même, malgré tout.
Exactement, c'est l'album de la continuité avec ses touches électro qui caractérisent bien Synapson, qui viennent donner un peu plus de peps sur ma pop solaire.
Tu les as rencontrés comment, Synapson ?
Je les ai rencontrés en festival.
Comme quoi, les festivals, c'est des belles rencontres.
Exactement, c'est souvent des belles rencontres avec d'autres artistes et aussi avec le public, parce qu'il y a vraiment un truc de communion, de barrières sociales qui tombent, de barrières générationnelles aussi. Il y a vraiment dans les festivals, c'est des moments uniques de communion, je trouve, et on en a besoin aujourd'hui de se rassembler.
Oui, mais toi, c'est vrai que t'es quand même très particulière parce que t'es très proche de ton public. On a aussi la chance souvent que tu dises tout le temps oui quand on t'a invité dans notre émission, t'as dit oui à chaque fois. C'est pas malheureusement la majorité des artistes aujourd'hui de la musique, et c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'avoir des artistes comme toi qui partagent, qui sont là vraiment, on voit, ils font ça parce qu'ils aiment ça et qu'ils aiment les gens tout simplement et partagent avec eux.
Oui, c'est vrai que c'est aussi dans ma perso, etc. J'aime les gens, j'aime les histoires des gens, j'aime partager. Mais c'est vrai que la musique est un vecteur exceptionnel pour ça.
On va découvrir dans quelques instants un tout nouveau titre qui est sorti justement au début de l'été. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on se réécoute Regarde, le titre éponyme de l'album. Moi, j'aime bien celui-là. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce titre ?
Alors, ce titre, il va un petit peu à contre-courant de notre temps, j'ai envie de dire, parce que c'est une chanson d'amour qui dure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus dans le mood « tu swipe, tu changes, au premier problème, tu peux changer de partenaire, etc. » Et là, c'est vrai que moi, j'ai envie d'y croire encore, à cet amour qui dure, d'écrire une histoire à deux, d'être avec un ou une partenaire avec qui tu vas regarder dans la même direction et avec qui tu vas pouvoir faire ta vie. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il s'agit pas de trouver sa moitié, il s'agit d'être quelqu'un de complet, de trouver quelqu'un de complet et de pouvoir s'élever ensemble ou de marcher ensemble. Voilà, chacun peut avoir son but, mais chacun peut s'épauler pour aller vers ce but. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très beau dans une époque où on a tendance à swiper ou à baisser les bras parfois trop vite, à mon goût.
Ça s'appelle « Regarde », titre de Vanille qu'on va écouter maintenant. Il aurait même pu avoir en sous-titre dans la même direction après. C'est pas mal ça, t'as vu. Allez, on revient tout de suite avec Vanille. L'album « Regarde » est déjà en vente évidemment dans tous les bons espaces culturels. Et on va l'écouter maintenant. À tout de suite.
Regarde comment ça ressent. Yeux dans les yeux, main dans la main, à travers l'existence. Le manteau de ma polo est contre toi. Regarde tout ce qu'on a rêvé pour en arriver jusque là, tout ce qu'on a traversé. Tard le soir comme avant dans le noir, quand ta main ne me lâche pas, qu'elle me promet que ça va. Ils se font rares les soirs comme avant dans le noir. Nos corps se désirent encore à force de continuer d'y croire. Mais regarde, nous regarde mieux, nous ce qu'on a. c'est plus que ça, c'est toute une vie à deux. Car le soir, comme avant dans le noir, quand ta main ne me lâche pas, qu'elle me promet que ça va. Ils se font rares les soirs, comme avant dans le noir. Nos corps se désirent encore, à force de continuer d'y croire.
Voilà, vous écoutez Vanille actuellement dans Chut, on écoute la télé pour notre plus grand bonheur, ça fait du bien. De la musique comme ça en plus. Et l'album Regarde, eh ben, est en vente partout, donc n'hésitez pas à vous le procurer en tout cas. Vanille, c'est difficile aujourd'hui de vivre de la musique. Aujourd'hui, c'est une fierté aussi de pouvoir, quand on y arrive, en vivre et d'avoir une base fan quand même solide et qui te suit maintenant depuis de nombreuses années.
Oui, c'est sûr que c'est une fierté, parce que c'est vrai que les revenus du stream sont plus que c'était avant. Si tu veux, si t'avais un hit ou un voilà, tu pouvais clairement t'acheter un appart cash rue Le Pic à Paris. Là, c'est plus trop le cas, si tu veux. Mais
avant d'avoir un yacht à Saint-Tropez, faut quelques années, quoi.
Ouais. Tu vois, faut en faire hein, du stream. Mais c'est vrai que voilà, la vie d'artiste c'est formidable. On fait beaucoup de rencontres, on vit de sa passion. C'est déjà un très grand privilège de pouvoir vivre des chansons qu'on écrit.
Et à la fois, je trouve que ça permet aussi de faire éclore beaucoup d'artistes aujourd'hui qui vivent la musique pour la scène, justement. Peut-être qu'à l'époque, il y avait moins d'artistes en live, et peut-être moins de scènes qui se faisaient, parce qu'évidemment, il suffisait de vendre 100 000 albums ou 150 000, et puis voilà, ça y est, on était les rois du monde. Là, aujourd'hui, il fallait chercher, justement, tous ces streams pour que les gens nous écoutent, et ça oblige les artistes aussi, justement, eh bien, à aller à la rencontre de leur public, et ça, c'est vraiment bien quand même.
C'est sûr que live aujourd'hui, c'est la pierre angulaire du métier et on peut pas faire sans. Ouais. Si tu fais un disque, t'es obligé d'aller le défendre sur scène.
On va en découvrir un autre dans quelques instants, justement. Vanille, comment tu vois l'avenir pour toi? Qu'est-ce que t'aimerais? Peut-être est-ce que t'aimerais aussi diversifier le côté artiste que tu es. Je vais donner des exemples, mais dans la peinture, dans la comédie, pourquoi pas aussi?
Alors moi j'aimerais évidemment continuer à faire de la musique, à écrire des chansons avec d'autres comme j'ai pu le faire pour cet album Regarde. La co-composition ça m'a vraiment beaucoup plu, mais moi comme je suis une amoureuse des mots et de la littérature, c'est vrai que j'ai un peu ce rêve d'écrire un roman un jour, donc j'ai pas encore commencé, mais comme je lis énormément et que les mots ont une place très importante dans ma vie, je pense qu'un jour je ferai ça.
Ça serait chouette ça. Ça serait quel style qui te apprêt dans le roman, plutôt le roman d'amour, le roman policier, enfin, tu sais quel genre déjà, dans quel genre t'aimerais aller?
Ouais, j'aime bien évidemment les romans d'amour, etc. Mais j'aime beaucoup la psychologie humaine. Donc j'aime bien rentrer très profond dans la psychologie des personnages. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. J'aime bien les gros pavés. Je te dis pas que j'écrirai forcément un gros pavé, mais j'aime bien les gros pavés où on va vraiment en profondeur pour décortiquer l'humain, en fait, l'âme humaine, quoi. Ça me passionne.
Et alors que tu défends ton album depuis un an, on imagine que tu travailles déjà un petit peu sur la suite.
Ouais. Exactement. Donc là, je viens de sortir un nouveau morceau le 3 juin qui s'appelle Comme mes poteaux. Et donc, c'est un peu le début de la suite. Voilà. C'est sur des rythmes un petit peu afro-urbains, sur des paroles avec beaucoup d'humour, mais quand même assez engagées. Donc, c'est un petit cocktail qui donne un petit peu la direction de la suite.
Justement, cette suite, tu la voudrais pour quand? Idéalement, 2027, 2028?
Oui, voilà, ouais, 2027, continuer à sortir des titres jusqu'à l'album, peut-être fin 2027, début 2028, c'est un bon objectif.
T'as des rêves de collaborer avec certains artistes ou pas?
Oui, bien sûr. Moi, j'adore Gaël Faye, j'adore Céu Georges aussi, les Brésiliens, mais j'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais vraiment faire quelque chose un jour avec lui. Et Gaël Faye, on partage l'amour des mots, tous les deux.
Il y en a un avec qui t'aimerais partager un jour la scène? Ton papa?
pourquoi pas, ouais. On avait déjà fait un duo sur un disque de duo qu'il a fait, et c'était un très bon moment.
C'était une belle expérience.
Ouais. C'était une belle expérience.
Bon, sans doute, en tout cas, avec toute la générosité qu'on te connaît. Tu vas continuer à sillonner les routes de France. Et évidemment, tourner, si Vanille passe près de chez vous, n'hésitez pas en tout cas à aller la voir. Puis on va écouter comme des poteaux, qu'est-ce que t'en penses?
Allez, on y va.
Ça nous représente bien pour la troisième fois qu'on se voit et qu'on passe ce moment ensemble. On est presque comme des poteaux maintenant. Voilà. Merci à toi.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
À la prochaine, ouais, merci.
Allez, la dernière partie de Chut, on écoute la télé de la saison, c'est dans quelques instants, juste après ça, avec l'équipe de Tombé du ciel. Le film, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Ma vera, c'est finito. Je suis en concert comme Benito. Sur ma vera, au del Paso. Ne m'appelle pas. Oh mamacita, oh mamacita. C'est plus la peine, c'est plus la peine. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est plus la même. Non, 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 non. J'suis boosté tout l'été, y'a tout le monde qui m'appelle. J'suis tout beau, j'suis bronzé, j'crois que j'vais claquer ma paye. J'vais lever la moto ce soir, j'ai pas sommeil. J'veux la vie de château, toi tu veux que j'revienne. J'suis trop boosté. Trop boosté. J'suis trop boosté. J'ai oublié ton prénom, je l'ai oublié. Je sais que t'as mal, j'suis trop mimi, j'suis trop kawaii. Trop de manières, resserre-moi un verre. J'suis déjà là-bas. J'suis boosté tout l'été, y'a tout le monde qui m'appelle. J'suis tout beau, j'suis bronzé, j'crois que j'vais claquer ma paye. J'vais lever la moto ce soir, j'ai pas sommeil. J'veux la vie de château, toi tu veux que j'revienne. J'suis trop boosté. Trop boosté. J'suis trop boosté. Oh mamacita, oh mamacita.
s'éteint. C'est plus la peine, c'est plus la peine. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est plus la même, non, 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 non. J'suis boosté tout l'été, y'a tout le monde qui m'appelle. J'suis tout beau, j'suis bronzé, j'crois que j'vais claquer ma paye. J'vais lever la moto ce soir, j'ai pas sommeil. J'veux la vie de château, toi tu veux que j'revienne. J'suis trop boosté. Trop boosté. J'suis trop boosté.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, ça sera certainement le film de vos vacances d'été à ne pas rater. Ça s'appelle Tomber du ciel. C'est le tout nouveau film de Mohamed Hamidi qui sortira le 12 août prochain au cinéma. Mohamed est avec nous pour en parler. Bonjour Mohamed.
Bonjour, vous allez bien ?
Mais ça va très très bien, je suis très heureux de te retrouver. Et t'es pas venu tout seul aujourd'hui, tu es venu avec Jade Pedri qui joue le rôle de Louise. Bonjour Jade.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Momo qui est avec nous aussi, bonjour Momo.
Merci, bonjour à toi.
Et qui va nous faire beaucoup rire aussi dans le film. Vous allez voir, il y a beaucoup beaucoup de rire. Moi j'ai eu la chance de le voir à l'Alpe d'Huez il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'on rigole de bon cœur pendant 1h40. C'est un vrai bonheur, mais bon, Mohamed, la comédie tu sais faire.
On sait jamais faire, tu sais, rien n'est gagné d'avance, surtout avec le rire. Il y a Iliès qui connaît bien ce public-là, Iliès Djadel qui joue sur scène. Je suis aussi son metteur en scène depuis quelques années maintenant. Et du coup, mais c'est jamais gagné dans un film. Et quand tu entends les premiers rires dans la salle, c'est toujours une émotion incroyable.
Alors justement, tu me fais une passerelle avec Iliès Djadel, qui est quand même un peu l'instigateur de cette histoire.
Complètement. Iliès, en fait, il a une expérience dans un lycée catholique. Je l'ai rencontré sur ce sketch du lycée catholique. Et c'est suite à ça qu'on a commencé à bosser ensemble. J'ai fait son spectacle avec lui. Et du coup, un jour, il m'a dit, je vais en faire un film. Et je l'ai accompagné dans cette démarche.
Alors, on y suit justement le parcours d'Iliès, alors qu'il prépare le bac. Ça se passe pas très, très bien. Et il faut dire que la seule solution qu'on va trouver suite, on va dire, à un incendie dans le lycée, c'est de l'envoyer carrément dans une école catholique. Alors évidemment, quand on s'appelle Iliès, qu'on arrive dans une école catholique, ça fait pas toujours bon ménage. Et puis c'est vrai qu'en plus, cette histoire a démarré un peu avec ses potes.
À cause de moi.
Momo, à cause de toi. C'est à cause de toi tout ça ?
C'est à cause de moi que le lycée a pris feu.
Et tu vas mettre un moment à lui dire. Hein.
Je vais mettre un moment à lui dire, mais je vais lui dire avec beaucoup d'émotion. Je lui annonce et je laisse les gens découvrir le film par la suite.
Et on va découvrir beaucoup de personnages hauts en couleur, celui de Fred Testo, de Josiane Balasco aussi, qui vont accueillir Iliès dans cette école catholique. Alors lui, évidemment, est pas du tout content d'arriver là-bas, jusqu'au moment où il va faire une rencontre avec Louise quand même.
Oui, absolument, sur le toit du lycée, au moment où il tente de s'échapper. Pourquoi ?
Cette rencontre va me remettre un peu tout en question de ses plans.
Pourquoi reste-t-il ? Bon, on sait pas vraiment, mais ouais, c'est ça.
Les yeux bleus de Louise.
Iliès a vu les yeux bleus à Jade. Il a changé d'itinéraire, il a changé de plan. Il reste au lycée.
Alors, je crois qu'on peut dire, Mohamed, que pour Iliès, cette arrivée dans cette école va changer un peu et bouleverser son existence.
Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien faire des films de rencontres et de réconciliation. Tu as vu la vache, tu as vu jusqu'ici, tout va bien. En général, mes films parlent de ça. Et là, ce qui était intéressant, c'était de traiter comment ce petit jeune là de Roubaix, qui ne connaît pas le lycée catholique, qui ne connaît pas cette espèce de rigidité, etc., arrive. Et comment il va se plier ou pas à la discipline, à la manière de voir les choses, aux prières le matin, etc. Là, il est amené par des raisons un peu extrascolaires, hein, parce qu'il a envie de se barrer, puis il rencontre effectivement Louise sur le toit du bahut. Et il se dit, ouais, finalement, je vais rester quelques jours pour voir. Et puis il se prend au jeu. Et il rencontre des gens super qui l'aident, d'autres qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, il progresse. Et surtout, c'est sous la bienveillance de Josiane Balasco, hein, sœur Catherine, et Fred Testo, qui, même s'il est un peu filou, lui donne du fil à retordre, mais lui occupe bien ses journées, quoi.
On va voir qu'il cache peut-être beaucoup de secrets, justement, Fred, au fur et à mesure de cette histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, de réaliser, puisque c'est Jamel Debbouze, notamment, qui produit le film. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à la réalisation, l'histoire, le scénario, comment ça s'est passé?
Bah, c'est Iliès, en vrai, moi. C'est Iliès, c'est parce que je travaille avec lui, parce qu'il voulait faire son premier film, parce que moi, j'adore faire des comédies, parce que je sais que c'est un travail compliqué. Pour lui, c'est compliqué aussi. C'était, en fait, ce qui m'a fait un peu réfléchir, à vrai dire, c'est que c'est la première fois que je faisais un film que j'avais pas initié. J'ai fait 5 films avant, ou que j'ai lancé, avec des histoires que j'ai lancées, etc. Là, c'est Iliès, c'était le film d'Iliès. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à s'entendre, etc. Et ça s'est hyper bien passé, en fait. Donc, j'ai fait le film pour lui, et voilà, c'est son film aujourd'hui aussi. Autant que le mien, d'ailleurs.
Il faut dire que face à l'adversité de tout ça, à un moment donné, il va avoir quand même besoin de ses amis. On va pas dire pourquoi, évidemment. Et Momo va risque de faire son arrivée, évidemment, à l'école catholique.
C'est ça.
Et ça va mettre un beau pataquès, tout ça. Et c'est ça qui est drôle. Comment tu le définirais, toi, ton personnage ?
Moi, je définirais... En fait, j'ai pas eu de difficulté à jouer mon personnage parce que il ressemble beaucoup à moi quelques années auparavant. J'ai gardé le même prénom, le même pseudo, Momo. Je m'appelle aussi comme ça dans la vraie vie, dans le film aussi, et j'ai pas eu de difficulté. Du coup, c'était à peu près le même personnage, un peu moqueur, mais fidèle à ses amis.
Ouais, c'est ça qu'on ressent. C'est vrai, dans le film, il y a une fraternité. La religion est aussi, bien sûr, au cœur de l'histoire, mais avec ce mélange, justement. Et c'est ça qui est beau à voir, parce qu'on s'aperçoit que des jeunes peuvent cohabiter avec différentes religions, différents savoirs, le vivre ensemble.
Vivre ensemble, c'est vraiment le message qu'on a essayé de diffuser durant tout le film. Et c'est vraiment un beau message, le vivre ensemble. Parce que dans les quartiers, c'est vrai que ça se passe comme ça. Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des portugais, il y a des marocains, il y a des maliens, et on arrive à tous vivre ensemble. Et c'est ça qui est beau, que dans ce film-là, ça soit bien reflété.
C'est un très très beau message.
Je vais ajouter quelque chose, c'est que tout le film est hyper bienveillant. Les blagues, il y en a sur tout le monde. Et c'est hyper important, ce que j'allais dire, parce que je sais que Mohamed et Ilyes ont fait lire le scénario au père du lieu où on tournait. Et il y a des choses qui ont été corrigées pour offenser personne. Et du coup, on rit, mais toujours dans la bienveillance. Et je trouvais ça hyper important.
Il paraît que tu fais très bien les lasagnes, du coup. Enfin, Louise fait très bien les lasagnes.
Alors, Louise fait super bien les lasagnes. Jade, beaucoup moins, elle est végétarienne. Donc, les lasagnes au bœuf, voilà, pas trop pour moi.
Bon, c'est pas la peine que je te demande pendant la bande-annonce de nous faire des lasagnes, en tout cas pour aujourd'hui. Tombé du ciel, ça sort ce 12 août au cinéma. On ne le rate pas, on écoute la bande-annonce. On revient juste après avec notre joyeuse équipe. À tout de suite.
Ilyes, rentre réviser, demain c'est le bac.
Faut vraiment que tu laisses couci.
Il est hors de question que vous terminiez l'année ici. Vous allez changer de lycée. Il s'agit d'un lycée catholique.
Ahmed, Ilyes, Fatima, c'est pas catholique. C'est pas... Jésus va jamais vouloir, je pense, hein ?
Il s'agit du lycée Albert le Grand à Chablis.
Écoutez, madame, moi je viens d'arriver ici.
Vous m'appelez ma sœur.
J'ai pas le numéro de votre sœur. Et du coup, vous êtes qui ?
C'est le frère Oscario.
Ça va, frère ?
Et voilà, Tombé du ciel, ça sort le 12 août au cinéma. On a avec nous une partie de l'équipe qui sont nos invités. Alors, c'est vrai que la belle gosse de l'école, c'est quand même Louise.
Ah, c'est gentil, ça, merci.
Bah oui, quand même.
Je pense pas qu'ils m'ont casté pour ça, mais c'est gentil, merci.
Elle développe en tout cas tous les charmes pour obtenir ce qu'elle veut, un peu d'Ilyes quand même. Et lui avec ?
Alors, je pense pas que ce soit que ça. Je pense qu'il y a un intérêt mutuel. Il y a une curiosité aussi parce que il est différent des garçons qu'elle connaît. Mais elle le remet en place quand il faut et elle va pas y aller juste parce qu'elle l'a trouvé mignon à un moment donné. C'est parce qu'elle.
Ah, mais elle a du caractère. Hein.
Elle a du caractère.
Catholique. Ça se laisse pas marcher sur les pieds.
Pourquoi on est catho ? Mais c'est pas parce qu'on n'est pas une petite fille bien sage. Enfin, on est des gens normaux, quoi.
Bah oui, c'est ça qui est chouette. Mohamed, moi, celui qui m'a fait mourir de rire, c'est Max. Max Bessette de Malgré, il est incroyable.
Ouais, c'est un acteur incroyable. On a eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'on voulait pas être dans le cliché du petit blanc qui joue les Kaira. On l'a beaucoup vu au cinéma, c'est vrai. Et nous, on voulait vraiment quelqu'un qui respire la bienveillance, qui respire la gentillesse. Et on a trouvé Max et on a adoré travailler avec lui, écrire pour lui. Et c'est vrai que dans le film, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça déclenche des gros rires, quoi. Et d'ailleurs, ouais, c'était dès les répètes, dès la réécriture, parce qu'on s'est vu en essai, puis après en séance de travail. C'est un sacré comédien, Max, sacré comédien.
Il y avait beaucoup de monde des fois devant la caméra. Comment on gère tout ça, Mohamed ? Je sais que t'es habitué, mais quand t'as fait les footeuses, t'avais toute une équipe de foot à mettre en... Mais c'est vrai que t'avais des fois des scènes avec énormément de monde.
En fait, c'est très compliqué, mais ça, c'est avec l'expérience qu'on y arrive. Et surtout, on prévient les gens. C'est toujours les premières prises, les premières mises en place, elles sont toujours un peu bordéliques parce que chacun ne sait pas trop où se mettre. Donc je leur dis de vivre un peu la scène. Chacun sait à peu près ce qu'il a à dire. Nous, il faut qu'on filme, donc on a la caméra ou les caméras. Moi, je travaille souvent à deux caméras. Et c'est vrai que les choses après mettre en place un peu naturellement. Et c'est vrai que les premières prises, elles sont un peu rigides. On voit que les comédiens, ils se disent « Ah non, j'ai pas le créneau, est-ce que je vais le dire comme ça ?» Mais moi, je leur dis toujours « N'ayez pas peur de vous mouvoir, n'ayez pas peur de prendre votre place, ne vous inquiétez pas. » Et moi, je ne passe pas au plan suivant tant que je n'ai pas la vie dans la scène. Tant que j'y crois pas. Et effectivement, je fais souvent une prise, deux prises comme ça pour chauffer les gens. D'ailleurs, je devrais presque arrêter de tourner parce que je les monte jamais. Mais surtout quand il y a plein de monde. Hein. Et après, c'est organique en fait. C'est organique. Les gens organiquement vivent la scène. Et surtout avec des comédiens jeunes ou même des gens qui n'ont pas encore tourné, il faut qu'ils comprennent en fait, qu'ils s'oublient et qu'ils vivent la scène au temps présent. Quoi. Vraiment, il y a un personnage en face d'eux. C'est pas Ilyes Jadel, c'est pas Jade Pedri, mais c'est Louise. Et c'est Ilyes et c'est Sœur Catherine. Et au bout d'un moment, il faut qu'ils comprennent, qu'ils oublient le scénario, le texte, et qu'ils me jouent la scène telle que j'ai envie de l'avoir dans le film pour que j'y croie, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment un travail de de mise en scène, de préparation, mais aussi leur donner confiance et les laisser vivre et capter tout ça le mieux possible avec l'équipe, quoi, voilà.
Petit clin d'œil aussi à notre amie Mathilde Abdelkader, hein, qu'on adore aussi, que j'embrasse. Je sais qu'elle nous écoute souvent, Mathilde. Et très très belle partition en tout cas aussi dans ce film. Meilleur souvenir, Jade?
Meilleur souvenir.
Il doit y en avoir plein, non?
Tous les jours, c'était un meilleur souvenir. Franchement, je me suis rarement autant amusée et même vraiment tapé des fous rires pendant les prises. Et c'était très dur pour moi. Il y a plein de scènes où je tourne la tête tellement je les trouve merveilleux et drôles. Et c'est que des gens que j'aime très très fort. Et ça a été vraiment une très belle aventure. Donc tout le film. Même aujourd'hui, chaque moment avec ces gens.
Et Momo, le meilleur souvenir, est-ce qu'il y en a?
Mon meilleur souvenir, c'était la toute première scène que j'ai jouée. Parce que moi, j'étais pas du tout dans l'industrie du cinéma. Et j'étais complètement perdu. Et la première scène que j'ai fait, ensuite, Mohamed Hamidi nous a dit venez voir comment ça rend pour le premier plan. On l'a vu derrière et ça m'a fait quelque chose de voir comment une scène s'était jouée. Et j'avais aucune connaissance de ce milieu-là. Et Mohamed nous a mis à l'aise. Il nous laissait même à chaque fois faire une scène en plus où on pouvait partir un peu en freestyle. Et après, peut-être qu'il la garde. Peut-être qu'il y en a qui ont été gardés. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés. Mais il nous laissait toujours cette liberté de tenter quelque chose qui nous ressemble pour ajouter notre petite touche au film. Et franchement, c'était incroyable.
C'est vrai que Mohamed, c'est vraiment un point commun qu'il y a dans tous tes films qu'on a pu promotionner avec toi jusque là, c'est qu'il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de comédie, il y a aussi beaucoup de profondeur dans les sujets qui viennent se percuter. Je sais que c'est important pour toi aussi de mettre des sujets importants, des sujets de société aussi sur la table sous forme de comédie.
Non mais c'est vrai, moi mon credo c'est de parler de choses sérieuses mais de manière drôle. Donc j'ai parlé de l'identité, j'ai parlé des rapports hommes-femmes, j'ai parlé des rapports entre les quartiers et Paris, j'ai parlé du retour au pays, j'ai parlé d'un certain nombre de choses. Mais parce que la vie c'est ça en fait. Moi ce qui me plaît quand je fais du cinéma, c'est que moi dans ma vie c'est ça. On peut rire à un moment et puis être touché à un autre moment, d'une minute à l'autre. Et moi j'hésite jamais quand il y a de l'émotion à aller la chercher. Donc j'aime bien. Par exemple, je sais que ça, au niveau de l'écriture au départ, et même au niveau du tournage, ça a peut-être un peu, pas gêné, mais en tout cas perturbé Iliès, que j'aille chercher des moments d'émotion. Mais moi, ça me dérange pas, parce que l'émotion, elle fait aussi partie du thème qu'on aborde. Là, on parle de religion, on parle de comment se sentir dans un groupe, comment être apprécié par des gens, comment quitter son milieu d'origine, etc. C'est assez profond, je veux dire. Et puis, comment se respecter avec des religions différentes. Mais je pense qu'on peut l'aborder de manière drôle, sans être complètement absurde. Et là, en fait... j'ai essayé, en tout cas, dans la manière dont on a réalisé, monté, tourné le film, d'être à la fois marrant, mais à la fois de dire des choses qui ont du sens. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le fil conducteur de mon travail depuis maintenant quelques années.
Ne ratez pas l'arrivée, en tout cas, d'Iliès à Chablis. Vous allez beaucoup rire, c'est sûr. J'embrasse aussi nos amis Antoine Duléry et Ludovic Bertillot qui ont des partitions extraordinaires aussi dans le film. Il y a beaucoup d'amis, en tout cas, dans le film. Et on les embrasse tous très fort. Tombé du ciel, mais ouais, quasiment tout le casse, dis donc. En tout cas, le film sort le 12 août au cinéma. Ne le ratez pas. Allez le voir avec vos jeunes aussi. Emmenez vos jeunes au cinéma.
Les petits peuvent venir le voir, les moyens, les personnes âgées, tout le monde peut venir voir ce film. Il n'y a pas de scène gênante. Il n'y a rien qui va offenser personne, excusez-moi. Venez le voir en famille. En amis, en amoureux, n'hésitez pas, le 12 août.
Quel bon moment. En tout cas, merci beaucoup Mohamed Hamidi d'avoir passé ce moment avec nous. Mais c'est pas fini, parce que Mohamed, on va se retrouver dans une poignée de secondes. Est-ce qu'on peut dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, Mohamed?
Bah oui, parce que là, il y a Iliès Jadel, qui est donc l'acteur principal du film, qui va répondre à vos questions.
On parle de lui depuis 10 minutes, et bien ça va être l'occasion. Iliès Jadel débarque juste après ce petit extrait tombé du ciel. On rappelle, c'est le 12 août au cinéma. À tout de suite.
Chez les catholiques, c'est génial, mais je te préviens, il y a des pièges.
Tu fais quoi, là?
Je peux pas déjeuner ce matin.
Il est en train de manger tout le corps du Christ, là.
Commencez pas à dire j'ai mangé les gens.
Ce sont les hosties pour la messe de dimanche.
Allez immédiatement vous confesser.
Dans l'armoire, là?
Premier piège. Il mange du cochon tous les jours.
Tu veux, j'ai jambon beurre.
Non, en fait, vous avez...
Saucisson beurre.
Deuxième piège. Quand ils boivent, ils dansent, ils chantent, ils font la cululu. Attention, rentre jamais dans la cululu. Tu peux jamais en sortir.
Tout le monde s'éclate à la queue.
C'est pas vrai.
Voilà, on le disait, on va garder le meilleur pour la fin. Eh bien oui, pour cette fin de saison, ça sera notre dernier invité de cette saison 2026. Iliès Jadel qui nous rejoint. Bonjour Iliès.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va très bien. Quel film. Mais qu'est-ce qu'on a ri quand on l'a vu. Qu'est-ce que tu as pu nous faire rire? Il y a des punchlines incroyables. Je sais que c'est un film sur lequel tu travaillais depuis longtemps. Toi aussi qui te tient à cœur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que... le film qu'on va voir le 12 août, c'est le film que tu voulais, totalement?
Ouais, franchement, c'est même au-delà de ce que je voulais. Parce que c'est vrai que c'est une histoire personnelle, c'est ce qui m'est vraiment arrivé, c'est une histoire vraie. Mes parents, ils m'ont vraiment inscrit dans un lycée catholique. Donc depuis que je suis plus jeune, je rêve d'en faire un film. Aujourd'hui, on a pu le faire, ça s'appelle Tomber du ciel. Et ouais, je suis content parce que non seulement c'est un film qui vous a fait vraiment rire, et c'était le but, mais pas que, c'est un film qui fait passer c'est un film qui véhicule un beau message, un message de vivre ensemble. Moi, je le vois dans les salles de cinéma, là, les gens à la fin, ils me disent merci parce que ça véhicule quelque chose de bien, ça montre que malgré nos différences, on peut s'entraider, on n'est pas totalement différents. Et ça, pour moi, oui, c'est encore mieux que ce que je voulais parce que non seulement je fais rigoler les gens, mais en plus je leur fais passer un beau message. Et c'est vrai que quand les gens voient un film où ils voient des catholiques ou encore des musulmans, ils disent encore un film à cliché où on va rigoler des religions alors que pas du tout nous, ce film justement ne rigole pas des gens, on rigole avec les gens, on rigole de personne, on blesse personne, justement on fait attention à tout ça pour pas qu'il y ait de blasphème. Et ouais, c'est-à-dire que les gens ils sont doublement contents, donc je suis content.
Il est vrai que l'arrivée d'Iliès au pensionnat Saint-Albert-le-Grand n'est pas de tout repos. Il y a une rencontre avec Josiane Balasco qui est absolument dingue. Est-ce qu'il y a vraiment quelques phrases que tu as puisées sur ce que tu as pu dire toi à l'époque quand tu as vécu ça, qu'on retrouve dans le film?
Des phrases.
Ou est-ce qu'il y en a qui ont été ajoutées évidemment pour créer de la comédie?
Évidemment, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, mais ça reste, comme je vous dis, une histoire vraie, et il y a plein de scènes en tout cas qui sont vraies et qui me sont vraiment arrivées. Je ne vais pas spoiler le film, mais je pense notamment quand j'arrive dans cette chapelle le premier jour avec la Vierge en face de moi et que j'ouvre la porte et que j'arrive en retard et que tous les élèves me regardent, ça m'est vraiment arrivé. Donc en fait, ouais, plutôt des situations qui sont vraiment arrivées. Après, on a tiré parce que c'est une fiction évidemment, donc on rajoute plein de choses.
T'as eu un Célestin à l'époque toi aussi?
J'ai eu un Célestin à l'époque.
C'est extraordinaire, Max.
Extraordinaire, c'est un coup de cœur professionnel déjà parce que c'est un super acteur et c'est un coup de cœur dans le film parce que ouais, il fait du bien. C'est vrai que ce personnage, de toute façon, même quand on l'a écrit au scénario, on se disait purée, ce rôle il est vraiment incroyable. Carrément, des fois je disais purée, c'est un super rôle, il y a de la chance de jouer ce rôle. Et finalement, on a trouvé le mec parfait pour faire ça. Donc ouais, c'est incroyable.
Mohamed, la différence entre mettre en scène Iliès en spectacle et là le mettre en scène au cinéma, c'est quoi la différence entre les deux?
Bah, la différence, c'est qu'on peut intervenir entre les scènes. Quand on met en scène un spectacle, on travaille beaucoup avant, on échange beaucoup sur les textes, on échange beaucoup sur la mise en scène, sur le jeu, etc. Mais après, une fois que le comédien est parti, on le revoit plus pendant 1h30. Et l'intérêt dans un film, c'est qu'on peut être beaucoup plus précis, en fait, parce qu'on, déjà, on a plusieurs prises, et puis ensuite, on a le montage, même pour choisir les meilleures prises, etc. Donc, en fait, on est beaucoup plus dans la précision et dans la dentelle, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est très différent. Et en plus, souvent notre rôle en tant que metteur en scène, quand on met en scène des gens qui viennent du spectacle vivant, c'est justement de leur expliquer que la caméra, c'est pas le public quoi. Donc la caméra, elle est beaucoup plus proche, elle voit tout, elle entend tout, et c'est de leur dire de jouer un peu différemment. Et voilà, Iliès l'a très bien fait sur ce film.
Pareil, Iliès, te faire diriger justement en spectacle ou là au cinéma par Mohamed, est-ce que tu as senti certaines différences? Est-ce qu'il faut être justement plus précis sur scène ou là devant les caméras?
Bah, c'est, faut être précis pareil dans les deux cas, mais c'est deux précisions différentes. Quand t'es sur scène, c'est la scène, c'est du live, il n'y a pas de caméra, donc, c'est différent. Après, sur le cinéma, c'est un autre métier, donc, me faire diriger par Mohamed, c'était bien parce que c'est un homme d'expérience, il y a quand même.
Et tu connais bien, c'est rassurant.
Oui, déjà, premièrement, je trouve ça, mais en plus de tout ça, même si je le connaissais pas, il y a quand même une grosse carrière cinématographique, avec plein de gros films français, notamment La Vache, Jusqu'ici tout va bien, ou plein de films que personnellement j'aime beaucoup, donc.
On était là pour quasiment chacun,
hein. Non, mais quand quelqu'un a fait plein de choses, tu vas l'écouter, parce que tu dis, c'est ce qu'il fait. Donc c'est rassurant.
Il y a une sensibilité, il y a toujours, voilà, c'est toujours très bien équilibré, c'est ça que j'aime dans tes films, Mohamed, bien sûr. Alors, il est vrai que Iliès n'est pas insensible au charme de Louise, quand même, dans ce pensionnaire. Hein, c'est vrai que ses beaux yeux bleus, c'était difficile de résister.
Difficile, j'ai pas résisté. Je l'ai aimé direct quand je suis arrivé. J'ai un coup de cœur. D'ailleurs, ne me parlez pas de ça, ça me rend triste.
Bah oui, je vois ça. Elle était avec nous il y a quelques minutes, Jade. C'est vrai qu'elle nous a confié avoir passé un très très bon moment, en tout cas, que c'était une très belle rencontre.
Exactement, c'est une très belle rencontre, que ce soit Jade ou même tous les acteurs. Je pense que vous avez rencontré certains d'entre eux.
Jamel, c'était un beau cadeau qui t'a fait. C'est vraiment une marque de confiance de te produire justement sur ce film.
Bah oui, franchement. Après, je pense que le sujet lui tenait à cœur aussi, parce que Jamel, s'il aime pas, il va pas faire. Il était assez content du sujet. Je pense que c'est des valeurs communes, le vivre ensemble. Donc c'était un beau cadeau. Oui, j'étais très fier, mais je pense que j'étais aussi fier parce que je sais que il voulait le faire parce que ça lui tenait à cœur. Et je me disais, si ça lui tient à cœur, c'est que l'idée est bonne. Donc c'est ça qui m'a rendu le plus fier, c'est d'avoir une bonne idée qui plaît à un mec qui m'a donné envie de faire ce métier.
Quelle a été la scène la plus drôle pour toi?
J'ai plein de scènes que j'aime beaucoup dans ce film. Il y a plein de situations drôles et différentes. On utilise le comique sous plein de manières, sous plein de formes. Et donc, j'ai plein de scènes, mais si je les raconte, bah, c'est dommage. Vous allez pas les voir. Mais non, toutes les scènes, ça a été aussi pour moi top de jouer ce que j'avais fait dans mon sketch. Ce que je disais dans mon sketch, de le jouer au cinéma, quand je suis avec mon père dans l'armoire. Et que je dis bonjour papa, et qu'on a la discussion, ça m'a fait rire de manger les hosties. Enfin, je veux dire, voilà, ça je vous le dis parce que c'est dans la bande d'annonce, mais il y a plein d'autres scènes très très marrantes qu'on n'a pas mis dans la bande d'annonce, qu'il faut aller voir le film pour les voir.
Bon, en tout cas, ne ratez pas Tomber du ciel, c'est le 12 août prochain. Ilyes, c'est pas tout. Tu pars en tournée.
Exactement.
Et là, ça va déchirer sur scène puisque tu vas passer un peu partout, justement à partir de cet hiver. Tu passeras le 12 mars, notamment l'année prochaine 2027 à Béziers, le 28 mars à Toulouse, le 2 avril à Nantes, le 11 avril au Théâtre Féminin de Bordeaux ou encore à la Gare du Midi de Biarritz le 14 avril, à Pau le 15 avril et à Poitiers à l'espace des congrès du Futuroscope. Ça sera le 16 avril. Si vous pouvez, allez-y, allez voir Ilyes sur scène, ça déchire. À quoi peuvent s'attendre justement les gens qui vont aller le voir sur scène l'année prochaine?
À ce que ça déchire, comme vous venez de dire, ça déchire, ça pète, ça déchire. On rigole bien. Et pareil que dans le film, qui montre que même si on est différent, on rigole des mêmes choses. C'est un spectacle où vous pouvez venir en famille, les enfants, les ados, les parents et les grands-parents. Et ça fera rire tout le monde. De la même manière, tout le monde passera une bonne soirée. Donc venez, je vous invite à venir dans toutes les dates qu'on vous a dit là. Et on se voit au spectacle. Et surtout, venez voir le film avant le spectacle. Le 12 août.
Je trouve que c'est des beaux messages que tu véhicules, mine de rien, que ça soit dans le film ou dans les spectacles. Le vivre ensemble, rien de tel.
C'est le but. Donc ouais, rendez-vous le 12 août au cinéma et puis après rendez-vous en 2027 en tournée dans toute la France.
Le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Ilyes, d'avoir été notre dernier invité de la saison. J'espère que tu vas passer un bel été. T'es parti encore en tournée pour quelques semaines, en tout cas avant la sortie. Et on te la souhaite en tout cas très très belle, cette tournée à la rencontre de ton public. Merci Mohamed de nous avoir amené toute cette belle équipe pour terminer en beauté cette saison de Chut, on écoute la télé. C'est un véritable plaisir. On se retrouve bientôt pour le prochain film.
Très très bientôt.
Ah ouais, carrément. 2027 ?
Peut-être, peut-être.
Et ben voilà, le message est pris et reçu. Merci infiniment à tous les deux et à très bientôt. On se quitte avec un petit extrait. Tombé du ciel sort le 12 août au cinéma.
Je vous jure, je suis dans une prison. Là, je vous appelle avec un meuble.
Y a pas de réseau dans son monastère, là.
Wesh, mon frérot, ça va ou quoi?
Ça me fait trop plaisir que tu sois là, mon ref.
Voilà. Tu t'approches du cochonnet, là.
Voilà. Il y a du cochon partout, ici, en fait.
Bonjour, mon fils.
Bonjour, papa.
C'est mon pote Célestin, il se prend pour un arabe.
Tout se passe bien pour lui, alhamdoulilah.
Ça fait mal votre truc. Vous venez voir la Vierge, elle pourrait vous mettre bien. Un petit coussin. En fait, on n'est pas totalement différents. On est un peu les mêmes quand on regarde bien. Ça fait mal pour tout le monde.
Voilà, je vous avoue qu'on a cru qu'on allait jamais réussir à finir cette saison, mais ça y est, voilà, j'ai retrouvé ma voix et ça fait du bien. En tout cas, je voudrais remercier évidemment toutes les équipes de votre radio. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité sans faille, évidemment, tout au long de cette saison. Merci à tous les attachés de presse, à tous les artistes. Vous avez été près de 400 à passer dans l'émission cette année. C'est absolument incroyable et on a tellement hâte déjà de vous retrouver pour la prochaine saison. On rappelle donc qu'on sera de retour à partir du 31 août pour une nouvelle saison pleine de folie encore une fois. Donc je vous remercie infiniment, chers auditeurs de Chut, on écoute la télé, de nous avoir suivis et de votre fidélité. La quotidienne, elle, continue tout au long de la semaine, elle, par contre.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.